Tamani, voici nos informations en français.
Vendredi 18 décembre 2020, il est 18h, vous êtes à l'écoute de Studio Tamani, voici les titres de ce journal. La coalition citoyenne de la société civile pour la paix, l'unité et la réconciliation nationale au Mali demande la relecture de la feuille de route de la transition et la réduction du train de vue des membres du gouvernement. Le monde célèbre aujourd'hui la journée internationale des migrants. Cette journée intervient à un moment où plus de 4 millions de Maliens vivent à l'extérieur. L'ancien président du Burundi et ex-haut représentant de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel n'est plus, Pierre Bouyoya est décédé ce jeudi des suites du coronavirus. À la présentation, Adama Amadou Haïdara, la mise en onde est assurée par Mamadi Keita. Bonsoir à tous et bienvenue. La coalition citoyenne de la société civile pour la paix, l'unité et la réconciliation nationale au Mali demande la réélecture de la feuille de route de la transition, la réduction du nombre d'institutions et la diminution du train de vue des membres du gouvernement. La coalition recommande aussi la révision du code électoral et la réduction du nombre d'organes chargés d'organiser les élections. Ces propositions ont été faites dans son 5e rapport alternatif citoyen sur la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation. Ce document qui a été présenté hier à Bamako analyse les dispositions de l'accord et apporte un diagnostic en vue de faciliter sa mise en œuvre. Dr Abdoulaye Sall est membre de la coalition. Il est au micro de Moussa Mali Sissoko.
La réorganisation territoriale prévue par l'accord ne pourrait être réalisée que dans le cadre de la révision constitutionnelle. La relecture du dit accord, la structure du CSA, notamment en ses articles 59 et 61, pour permettre aux parties maliennes d'en assurer la présidence et le secrétariat, car la mise en œuvre de l'accord doit demeurer une affaire malienne. La feuille de route de la transition mériterait une relecture de manière à prendre en considération trois questions hautement prioritaires dans le contexte actuel du Mali. Il s'agit d'engager une lutte implacable contre l'insécurité, d'organiser le référendum constitutionnel et les élections générales. Il urge d'acter l'état de guerre pour permettre l'union sacrée indispensable à la résolution de la crise et consacrer le démantèlement et le désarmement de tous les mouvements et groupes concernés.
Cependant, dans son 8e rapport rendu public ce jeudi 17 décembre à Bamako, le Centre Carter, l'observateur indépendant au Mali, juge peu les progrès réalisés en 2020 dans la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. Le document indique ainsi que la période de la transition est une opportunité pour avancer dans l'application de l'accord. Ce constat est aussi partagé par certains responsables des groupes armés signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation. Pour ces derniers, les propositions du Centre Carter sont une véritable orientation pour accélérer la mise en œuvre de cet accord. Mohamed Ousmane Aga Mohamedoun, secrétaire général de la CPA et porte-parole des mouvements de l'inclusivité, est joint par Mamadou Samasekou.
Un aspect important du rapport, c'est qu'il nous a classé les réformes en deux catégories. Et il nous a montré du doigt tout ce qu'on peut faire en matière de réformes qui ne soit pas forcément lié à la réforme constitutionnelle. Pour dire que la constitution ne peut pas constituer un blocage. L'autre aspect, c'est l'appel à relancer tout de suite et à l'instant les actions qui concernent l'opérationnalisation du Conseil consultatif interrégional par rapport à la zone de développement des régions du Nord. La possibilité de dire très rapidement au mouvement qu'il faut à date échue dire concrètement, quand est-ce que nous allons procéder à la dissolution des branches militaires? Parce qu'il faut finir avec cette affaire de mouvement armé. Il faut qu'on arrive à normaliser le pays avec une seule armée. Et l'accent a été mis sur le fait que le gouvernement aujourd'hui contient l'ensemble des mouvements signataires. Cela est extrêmement important et je crois qu'il doit être vraiment exploité pour qu'on avance.
Réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte Twitter. Les négociations ont repris ce matin entre l'Union nationale des travailleurs du Mali et les autorités. Cette reprise des discussions intervient quelques jours après le retrait de la centrale syndicale des pourparlers à la suite d'une déclaration du président de la transition. Aussi, il faut noter que la grève de 5 jours de la centrale syndicale prend fin ce soir à minuit. Au Mali, le phénomène de la migration irrégulière inquiète les autorités, même si des actions sont entreprises chaque année en vue d'éclairer la longue antenne la lanterne des candidats sur ces dangers. Beaucoup d'efforts restent à faire et le nombre de décès liés à l'immigration est alarmant. Selon le ministre des Maliens de l'Extérieur et de l'Intégration africaine, plus de 4 millions de Maliens vivent au-delà de nos frontières. Des milliers de personnes, dont des Maliens, ont aussi perdu la vie au cours des 5 dernières années, ajoute le ministre. Les détails avec Mouda Issoufimeiga.
Au Mali, la Journée internationale des migrants est célébrée chaque année avec des activités de sensibilisation pour appeler à une migration plus ordonnée. Cette année, c'est la région de Kayes qui abrite l'édition 2020 placée sous le thème « L'impact de la pandémie de COVID-19 sur les actions des migrants et les communautés d'origine ». Selon le ministère des Maliens de l'Extérieur et de l'Intégration africaine, les femmes et les enfants non accompagnés de cette région sont les premières victimes de la migration irrégulière. Toutefois, ni ce ministère ni l'Association malienne des expulsés ne donnent le nombre exact de ses femmes et de ses enfants. Cependant, le ministère estime les Maliens de l'extérieur à près de 4 millions d'âmes. Ces chiffres indiquent aussi que plus de 375 candidats à la migration irrégulière ont trouvé la mort au cours de ces 5 dernières années. En 2017, 300 ressortissants de la région de Kayes ont perdu la vie dans un naufrage, conclut le ministère des Maliens de l'extérieur. À cela s'ajoutent des portées disparues dans le désert, regrette-t-il. Pour freiner ces phénomènes, les autorités maliennes cherchent à doter les pays d'instruments stratégiques, juridiques et institutionnels, en cohérence avec les standards internationaux des meilleures pratiques de la migration.
Les tensions se surchauffent à Maina autour de la gestion du château d'eau. Après la marche organisée ce lundi par l'Association pour la défense des patrimoines de Maina pour fustiger la mauvaise gestion de la Somajep, le Conseil communal de la jeunesse et une partie de la population ont battu le pavé hier pour mettre en garde l'ADPM contre tout accaparement de la gestion du château d'eau. La montée du fleuve au Niger continue de faire des dégâts dans la région de Tombouctou. Plus de 6400 sinistrés enregistrés et 497 hectares irrigués ravagés par l'eau sont entre autres les dégâts provoqués par cette montée à Douétiré dans le cercle de Goundam. À Lafia, dans le cercle de Tombouctou, des milliers de récoltes ont été endommagées, affirment les autorités locales. Selon le maire de Douétiré, en plus des champs de riz, les champs du blé et autres légumes sont aussi touchés. Younous Ameiga, maire de Douétiré, il est joint par Aboubakrine Ag Mohamedine Yatara.
Bon, la situation a augmenté par rapport à la fois dernière, parce que il y a d'autres sites qui sont inondés encore. Et sur le site de Gaudel, le site de Bangara, et au niveau des superficies, c'est arrivé jusqu'à 497. Ça, c'est uniquement en riz. Et dans les autres spéculations, le blé, l'oignon, il y a aussi une très grande superficie qui sont inondées. Au niveau du blé, il y a 173 superficies qui sont inondées. Jusqu'à preuve de contraire, on n'a reçu aucune. Ça, c'est le destin de cette année. Peut-être qu'avec la grâce de Dieu, peut-être qu'on pourra s'en sortir, Inch'Allah.
Après, inondations, qui deviennent les animaux?
D'autres sont partis vers le nord, d'autres sont partis vers l'ouest, vers les Babaga, Galaga, les Boya, là-bas ça va, là-bas l'eau n'est pas encore arrivée là.
L'ancien président du Burundi et ex-haut représentant de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel est décédé ce jeudi soir des suites de COVID-19 alors qu'il était en train de rejoindre un hôpital parisien. Le décès de cet ancien militaire à la retraite intervient quelques semaines après sa condamnation à la prison à vie par la justice de son pays pour assassinat de Melchior Ndadaye, également ancien président burundais. Les détails avec Imran Kilumega.
Pierre Buyoya a été placé sous respirateur artificiel depuis une semaine dans un hôpital de Bamako. Selon des sources sanitaires, son état de santé a commencé à se dégrader ce mardi avant son transfert par avion médicalisé à Paris dans la nuit de ce jeudi. Pierre Buyoya s'est éteint lors de son arrivée en France avant même d'arriver à l'hôpital où il devait être conduit, indique des sources concordantes. Il y a 3 semaines, Pierre Buyoya avait démissionné de son poste de haut représentant de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel, une fonction qu'il occupait depuis 2012. Il avait remis sa démission après avoir été condamné à la prison à perpétuité dans un procès qui se tenait à son absence au Burundi. Il avait été condamné pour avoir fomenté en 1993, il y a 27 ans, l'assassinat de Melchior Ndadaye qui était alors président du Burundi. Ce procès avait été qualifié par l'homme de massacrade politique et de parodie de justice. Pierre Buyoya a démissionné de ce poste au mois de novembre dernier pour se défendre et laver son honneur. Né le 24 novembre 1949 à Ruvutu, dans la province de Bururi à Burundi, Pierre Bouyoya est décédé ce 17 décembre 2020 à l'âge de 71 ans. De son vivant, l'ex-président burundais a fréquenté l'école royale de cadets de Bruxelles en Belgique en 1967. Il passa ensuite à l'école militaire de 1970 à 1974, puis il rejoint l'école d'application de troupes blindées. À sa sortie de cet établissement, Pierre Bouyoya a été nommé en 1975 chef de peloton. Deux ans après, il devient commandant d'escadron à Jitega de 1977 à 1980. Sept ans après, il renverse le président Jean-Baptiste Bazaga et se proclame chef de l'État en 1987.
Studio Tamani, financé par le gouvernement de la Suède, du Danemark, de la Suisse et par l'Union européenne.
À présent, un tour dans nos régions à Massina, une formation des jeunes sur le système et le programme d'approvisionnement en eau des champs rizicoles de l'Office du Niger s'est tenue ce jeudi. Cette session vise à doter une cinquantaine des jeunes riziculteurs des techniques d'entretien de champs et le respect du niveau d'eau. Elle permettra aussi de renforcer leurs capacités dans l'utilisation du fumier organique, de l'engrais chimique et le choix de la qualité de la semence. Elle a été organisée par l'Association des jeunes écologiste pour le développement de la commune rurale de Massina avec l'appui de l'ONG Tare. La plateforme multisectorielle de nutrition a tenu ce jeudi sa rencontre trimestrielle à Yurusu. Cette rencontre a permis de présenter les résultats des travaux réalisés dans le cadre de l'amélioration de la fréquentation des centres de santé, de la vaccination et du dépistage de la malnutrition chez les enfants. Elle a regroupé les maires des 9 communes de la localité, les représentants des services d'agriculture, de l'élevage, les services sociaux, sanitaires et les médias. À Sikasso, les fêtes de fin d'année se préparent dans les salons de coiffure et au marché. Il y a de plus en plus de l'affluence. Les vendeurs d'accessoires de beauté et les habits affirment qu'ils se frottent bien les mains. Et c'est ce qui met fin à cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Vous pouvez réécouter toutes ces informations sur notre site web www.studiotamani.org ou en appelant gratuitement sur Viamo au 37 321. Dans un instant, le magazine. We'll be right back.